Chapitre 30. La pièce dans laquelle Raphaël avait un rôle était une opérette mythologique, Les Compagnons d'Ulysse, qui eût porté pour sous-titre, si la mode avait été encore au sous-titre, ou Les hommes changés en bêtes par l'amour. Ce rôle, qui n'avait pas grande importance, était celui d'une des pensionnaires de la Circé, nommée Nélée. Balbine jouait une autre de ses nymphes, Biblis. Quand Raphaël arriva au théâtre, la répétition était commencée depuis quelques instants déjà. Ce fut une affaire pour elle d'arriver jusqu'à la scène. La concierge ne la connaissait pas. Que demandait-elle? Où allait-elle? Il fallut répondre, parlementer. Mais comme sa toilette était élégante, comme ses bijoux étaient riches, ce ne fut pas trop rudement qu'on l'interpella. C'était une cocotte, il fallait garder avec elle un certain respect. Enfin, elle put monter l'escalier sombre, aux marches usées, et arriver tant bien que mal sur la scène à peine éclairée, au milieu de laquelle brûlait un bec de gaz dont la flamme était rabattue par un réflecteur. Venant du grand jour, ne sachant pas trop où elle se trouvait, il lui fallut un certain temps pour se remettre et surtout pour se reconnaître. Le rideau était levé et, par-dessus la rampe, on voyait un vide noir, la salle. À l'avant-scène, il y avait un fauteuil et deux chaises en paille. Puis, devant le trou du souffleur, une autre chaise. Dans le fauteuil, Raphaël reconnut son directeur. Sur les deux chaises placées près de lui, elle devina les auteurs, et sur celle voisine du trou, le souffleur lui-même, qui, un manuscrit à la main, le haussait de temps en temps sous le réflecteur et suivait la répétition. Ça et là, sur la scène vide, des hommes et des femmes allaient et venaient avec un manuscrit à la main, tandis que d'autres se tenaient groupés, causant à voix étouffée dans le fond ou de chaque côté, à demi noyés dans l'ombre, ou bien éclairés d'une façon bizarre par un rayon de soleil qui, pénétrant à travers une fenêtre et se frayant un passage au milieu des toiles de fond, des rideaux, des tapis enroulés dans les cintres, tombant là, rapide et capricieux comme un éclair. « Ah, ça, voyons, elles sont toutes dehors !» disait Circé, moitié de mémoire, moitié en lisant sur son manuscrit. « Pas une ne rentre, que font-elles donc? Si cela continue, je n'aurai bientôt plus de bêtes à l'engrais. Enfin, voilà Biblis !»« Mademoiselle Balbine !» cria une voix. « Où donc est-elle ?»« Balbine, mais c'est vous, Biblis! Allons donc, en scène !» cria le régisseur en la poussant devant lui. Balbine s'avança, tenant son rôle roulé dans sa main. Elle portait une toilette du matin, mais dont la fraîcheur, l'élégance et la richesse contrastaient avec les vieux châles, les vieux manteaux, les vieux paletots défraîchis, usés, fripés, tachés, qui formaient le vêtement des comédiens et des comédiennes qu'on voyait sur la scène. Autour des doigts dégantés brillaient des diamants sertis de pierreries, et sur ses deux mains tombaient plusieurs bracelets qui jetaient des feux blancs, verts, rouges. « Eh bien, que dois-je faire ? » demanda-t-elle nonchalamment. « Comment ce que vous devez faire ? » ?»«
Oui, moi je ne sais pas. »
« Elle n'était pas à la lecture, » dit le directeur d'un ton indulgent. Quand Lajolée a dit « Enfin, voici Biblis », vous entrez par le fond, doucement, en vous retournant pour voir si on vous suit, et vous dites « Allez donc !»«
Allez donc !» répéta Balbine.
Le régisseur tapa du pied, tandis que les auteurs s'agitaient sur leurs chaises avec une mauvaise humeur manifeste. Voyant que Balbine tenait son rôle roulé dans sa main, le régisseur s'écria « Elle n'a même pas ouvert son rôle !» Puis, s'adressant au souffleur, « Monsieur Poget, qu'est-ce qu'elle dit ?» Haussant le manuscrit, le souffleur lut. « Bon, il s'en va. Je croyais cependant le bien tenir. »« Eh bien, y sommes-nous ? » demanda le régisseur. Balbine était remontée, mais elle ne bougeait pas. « C'est donc un pot-au-feu à remuer, cette fille-là » s'écria un des auteurs exaspéré. Mais le directeur, se penchant à demi vers lui, le fit taire en lui représentant qu'on ne traitait pas de pot-au-feu la maîtresse en titre du prince Savine. Pendant ce temps, Balbine avait descendu la scène et, sur son rôle, qu'elle s'était décidée à dérouler, elle avait lu la phrase dite par le souffleur.
« Et Nélée ? » demanda Circé. « Elle me suit !»«
Mademoiselle Raphaël ! » cria une voix.
Ce n'est pas la peine de l'appeler, dit le directeur. On ne sait pas où elle est.
Me voici, dit Raphaël, sortant de l'ombre qui l'enveloppait et descendant en scène en se dirigeant vers son directeur. Mais d'un signe de main, il l'arrêta et d'une voix grincheuse, qui ne ressemblait guère à celle qu'il avait prise pour parler à Balbine, il dit
« Qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci ? »
« Mais répétez ! »
« Vous avez votre rôle ? » ?»«
Non ? »
« Eh bien, alors, comment voulez-vous répéter ? Vous allez nous embrouiller et nous faire perdre notre temps à tous. Attendez que nous ayons dégrossi cette scène. Pauget va lire votre rôle. Allez, Pauget, dépêchons. Attention, la Jolée, n'est-ce pas ? Et vous aussi, mademoiselle Balbine. »
Il se rencogna dans son fauteuil d'un air maussade, tandis que Raphaël, exaspéré, sortait de la scène pour se retirer dans le fond, où l'on entendait les chuchotements et les ricanements provoqués par cette algarade chez ses bons petits camarades qui ne la connaissaient que de réputation et qui, cependant, se réjouissaient de cet heureux début. Pendant ce temps, le souffleur lisait son rôle, c'est-à-dire qu'il en disait simplement les premiers et les derniers mots pour donner la réplique à Circé et à Byblis. On recommença la scène deux fois, sans qu'elle marchât beaucoup moins mal la seconde que la première. Puis le directeur, quittant son fauteuil, vint enfin à Raphaël et l'emmena à l'écart.
« Vous savez qu'on vous a mise à l'amende !» dit-il sur le même ton de mauvaise humeur.
Raphaël dédaigna de se défendre et d'expliquer pour quelles raisons elle n'avait pas pu venir aux premières répétitions.
« Très bien, dit-elle, je paierai. »
« Il ne s'agit pas de payer, il s'agit d'être exact. Est-ce que le théâtre est possible avec des femmes qui décampent sans dire où elles vont ?» Il était furieux. Seulement, ce n'était pas parce qu'elle avait décampé, comme il disait, mais bien parce qu'elle était revenue au moment même où il allait lui faire un procès pour l'obliger à payer les 100 000 francs de son dédit, dont il avait le plus grand besoin et sur lesquels il commençait à compter un peu. Ce fut avec un visage calme qu'elle écouta toutes les mauvaises paroles qu'il lui prodigua, reproches, injures, sottises, ne se fâchant pas, ne répliquant pas, ne bougeant pas. Quand il se tut enfin, étant arrivé au bout de son rouleau, elle le regarda en face.
« Est-ce que vous me supposiez assez bête pour vous payer mon dédit ? » demanda-t-elle doucement.
« Mais,
quand j'aurais eu l'idée de redevenir libre, est-ce que je ne sais pas que je le serai dans 2 mois, mettons 3 mois, si vous êtes sûr d'obtenir des délais jusque-là ? Voyons, franchement, est-ce que je vais racheter 3 mois 100 000 francs ?»
Il lui lança un regard de fureur, mais elle ne baissa pas les yeux.
« Il y a des femmes qui connaissent les affaires, » dit-elle. « On les renseigne. »
À ce moment-là, on vint les interrompre.
« Restez là, » dit-il. « Attendez. »
Il revint au bout de 10 minutes, son visage avait changé d'expression. «
Allons, dit-il, je ne vous en veux pas, et pour vous le prouver, je lève vos amendes. »